C'est le pourquoi de la vie. Je suis appelé à aller plus loin. Après. Ah bon, vous allez vous marier. Et après ? Nous serons... combien, chérie ? Parce que maintenant, on programme tout. 3 enfants. Et après ? Après, nous allons leur donner une bonne éducation. Et après ? Ben après, nous continuerons de travailler. Et après ? Ben, ce sera la retraite. Et après ? Monsieur, écoutez, vous nous dérangez un peu. La maison de retraite, voilà, je vous le dis, sûrement ça pour nous. Nos enfants ne pourront pas nous héberger. Et après ? Certainement des unités de soins, bien sûr. Et après ? Ben, nous mourrons sûrement. Et après ? Oh, après ! Vous ne l'avez jamais appris ? Vous avez appris comme moi le nom des batailles de l'histoire de France, le nom des morts de l'histoire de France. Vous avez appris comme moi les rois de la France, mais on ne vous a pas appris ce qui est devant vous. On nous a appris ce qui était derrière nous, la duchesse Anne de Bretagne, mais on ne nous a pas appris ce qui est devant nous, après, ce qui nous attend, ce que nous vivrons. Oui, mes amis. Je suis intéressé, j'aime beaucoup l'histoire, mais je voudrais entendre parler de mon histoire. Que vais-je devenir ? Est-ce que tout va se finir par un trou de 2 mètres par 1 mètre ? Ou est-ce que j'ai une petite espérance d'un ailleurs qu'on m'a toujours caché ? Oui, Dieu nous promet une maison, mais... la maison serait rien s'il n'y avait pas le papa avec nous. Une maison, ça ne fait pas le bonheur de tous. Mais enfin, il y a quand même une maison dans la Bible où Dieu existe, où il nous prépare une suite sans larmes. Bon, comment ? Ça va, oui. Ah ben, il y aura des éclairs aussi, ce sera... La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Enfin, Dieu nous promet après... Ça tient, ça va. Dieu nous promet un temps où la mort n'existera plus. C'est-à-dire des séparations, des agonies, des absences, où il n'y aura plus de souffrance, de larmes. Il nous promet un avenir meilleur... un avenir meilleur, peut-être pas totalement sur la terre, mais un avenir pour qu'on ne s'enferme pas dans le présent. On peut s'enfermer dans le présent et ne plus penser à l'avenir. Je vous l'ai déjà dit, j'ai travaillé à l'hôpital et à l'époque, je n'ai pas 400 ans, mais quand même, j'ai l'impression que j'ai connu un peu le Moyen-Âge à l'hôpital, l'hôpital hospice, où les personnes âgées avaient leur lit séparé de 50 cm. En randonnant, tout le monde était là, et une petite table seulement séparait les lits. Mais cette table, elle était un champ de bataille. Vous m'avez pris mon gâteau, vous m'avez pris ceci, ma montre, vous m'avez pris, vous êtes une voleuse. On se battait dans un présent sans penser à demain. J'étais infirmier, j'étais chrétien, et quand j'avais l'occasion, je leur parlais un peu du Seigneur, afin qu'ils ne restent pas enfermés entre la table de nuit et le lit, mais qu'ils sachent qu'après, il y avait autre chose. Alors c'est une histoire d'un homme qui refuse l'autre chose, un homme qui dit, des gens qui disent, non, on ne va pas aller à ton festin, on ne va pas aller au repas, on est avec nos bœufs, on est avec nos champs, avec notre mariée, avec la mariée. Dieu ne veut pas qu'on s'enferme dans rien du tout. Dieu ne veut pas que notre vie se limite à ce que nous voyons. Dieu veut qu'on lève les yeux au plus haut que nos réussites, plus haut que nos richesses, plus haut que notre santé. Il veut qu'on lève les yeux. Mais bien sûr, quand on travaille, on lève les yeux parce qu'on travaille avec l'espérance. Quand on laboure, l'espérance d'une moisson. Quand on se marie, l'espérance de bonheur. Quand on achète des bœufs, l'espérance de gagner de l'argent. Mais tout le monde n'a pas des bœufs, tout le monde n'a pas des champs et le bonheur de se marier. Il y a une autre espérance qui console, qui nous élève. Une autre espérance qui nous donne un grand coup d'aile pour remonter plus haut. L'abeille, quand elle a trouvé un terrain où il y a des fleurs, du nectar, des fleurs à butiner, elle revient dans la ruche et elle fait toute une petite danse pour dire aux autres abeilles, là-bas, là-bas, il y a autre chose. Elle tourne et elle montre la direction, elle calcule la distance, 3 km, pour que chacun prenne de la réserve pour faire 3 km de vol et trouver à butiner pour du miel que vous aimez. Je voudrais vous dire, il y a autre chose. La vie n'est pas simplement un présent, mais un avenir. Dieu dit même que nous sommes citoyens du ciel. Où le Seigneur va nous donner une beauté, un éclat, un bonheur que nous ne connaissons pas sur terre. Sur terre, les joies sont toujours assombries. Sur terre, il y a toujours l'épée de la maladie, du cancer. Nous avons enterré cette semaine un ami de 47 ans, crise cardiaque, il y a une semaine exactement. Alors, on est appelé à aller vers autre chose. Souvenez-vous de ceux qui sont arrivés en terre promise, les champions de la foi, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte et quand ils sont arrivés en terre promise. Qu'est-ce qu'ils ont dit devant cette magnifique terre où il y avait du lait, du miel? Ils n'ont pas dit, les enfants, tout le monde descend, on est arrivés. Ils ont dit, nous sommes encore des étrangers, nous sommes encore des voyageurs, nous attendons autre chose. Ils ont dit, nous sommes toujours des migrants. Vous savez que le premier migrant, c'est Adam. Décidément, ça commence bien. Hein. Adam, vous savez le mari de Ève, parce que Dieu le mit dans un jardin. Il l'a mis dans un jardin. Ça, c'est un migrant. Il a été déplacé. Il l'a mis dans un jardin. Premier migrant, Adam. Nous sommes tous des migrants. Et les enfants d'Israël ont dit, nous sommes toujours des voyageurs sur la terre. Ils ont dit, nous n'avons pas de cité permanente, de maison permanente. Nous cherchons une maison éternelle, promise par Dieu. Sur la terre, tout est fragile. Je regardais à la télévision l'autre jour comment cet astéroïde a frappé la terre il y a des millions d'années, bouleversant tout sur la terre, provoquant l'extinction de tous les monstres de l'époque. La terre, si solide, un petit astéroïde a tout bouleversé. Le philosophe Pascal disait, une goutte d'eau suffit à tuer l'homme. Un rien suffit. Une parole méchante d'un enfant suffit à tuer sa maman un jour de fête des mères. Non ? Des gens m'ont dit, je n'aime pas cette fête, parce que les enfants m'oublient. Et c'est une fête où on voudrait que les enfants pensent tous à nous et nous félicitent. Et nous aime. Alors vous me direz, pasteur, vous êtes contre les bœufs, vous êtes contre la terre. Moi je dis, les bœufs pour travailler c'est beau, ou les tracteurs aujourd'hui, la terre, les mariés, et les enfants et les familles, tout cela c'est bon. La Bible dit, Dieu a vu que cela était très bon. Parce que tout ce que Dieu fait sur la terre, de social, dans les familles, dans la société, tout cela est très bon, mais tout cela est limité. Un cancer trouble complètement la vie quand il s'abat sur une famille qui avait toutes les perspectives de bonheur devant eux. Nous sommes limités, nous nous heurtons à des limites. Et vous savez, sur la terre, on ne réussit pas à tout faire. Pour moi, la vie sur terre, c'est une symphonie inachevée. Même si vous avez fait beaucoup de choses, qu'avez-vous fait? Que restera-t-il? Qu'avez-vous fait de durable? De durable, pas seulement pour l'éternité, mais même sur la terre. Qu'avez-vous fait qui puisse durer chez vos enfants, chez vos petits-enfants? Quels souvenirs allons-nous laisser après nous? Ben oui, un jour, on se rend compte que tout est limité, les champs ne rapportent plus, ils sont rachetés pour faire des immeubles, les machines n'ont plus besoin de nous. Les machines, demain, nous diront très poliment, en japonais, en allemand et en français, ils nous diront, on n'a plus besoin de vous, on vous met au chômage. Les machines vont commander. C'est comme ça. Et les enfants déserteront la maison. S'ils nous disent au revoir, ce sera déjà beau. Ben oui, nous sommes limités. Le Seigneur invite beaucoup de gens à autre chose. Il envoie son serviteur dire, venez, tout est prêt. C'est ça l'espérance. C'est savoir que devant nous, il y a quelque chose. L'espérance, ce n'est pas de dire, j'espère qu'il fera beau demain. Je ne suis pas sûr. L'espérance, c'est quelque chose qui est déjà prêt. C'est là. C'est là pour nous, ça nous attend. L'espérance, c'est savoir que les choses sont préparées et elles m'attendent. Et moi, je les attends. C'est ça l'espérance. Souvent les gens disent « bon, j'espère », ça veut dire « j'y crois pas ». Espérer, ça veut dire « quelque chose vient vers moi ». Une autre vie m'est donnée. Venez, tout est prêt. Vous n'avez rien à apporter. Parfois les gens m'ont dit « venez les mains vides ». Vous n'avez rien à apporter. Et pour moi, cette espérance... pour nous dire « quelque chose vous attend », c'est ce serviteur qui l'amène. Ce serviteur qui, pour moi, représente Jésus et qui vient sur nos lieux de vie, dans nos champs, dans nos étables, dans nos usines, dans nos entreprises, dans nos familles. Et le Seigneur nous dit « ne mettez pas votre espérance dans les richesses incertaines, ne mettez pas votre espérance dans ce qui va passer. » Mais travaillez pour ce qui va durer éternellement. Ne bâtissez pas sur du sable, ne bâtissez pas en zone inondable. Bâtissez sur le roc, sur la solidité éternelle de Dieu. Bâtissez sur Dieu. L'espérance, c'est Jésus-Christ qui nous dit, « Venez à moi, je vous donnerai du repos. » Tout ce qu'on se souhaite, c'est le Seigneur qui nous le donne. Quand on se souhaite la bonne année, on dit « bonne année, mais l'année, je ne sais pas si je la finirai. Bonne santé, mais je ne sais pas si je l'aurai. Je te souhaite beaucoup d'années, beaucoup de réussite, mais on ne tient rien. Tout ce qu'on souhaite, ça nous viendra de Dieu. Venez, tout est prêt. » Pour se mettre en marche, je peux vous donner mon étonnement. Quand le serviteur est allé frapper aux portes en disant « Venez, tout est prêt », tout le monde a dit le même catéchisme « Excuse-moi, je te prie, je ne peux pas y aller. Excuse-moi, je te prie. » Ils se sont passés le mot. Tout le monde se dit la même chose. Excuse-moi, je te prie. Ça ne m'intéresse pas. J'y crois pas. Un jeune m'a dit un jour, j'y crois pas à la mort. Un autre m'a dit juste après, je ne crois pas en Dieu. Nous verrons. Il faut mieux se préparer. Personne n'a bougé. Alors le maître a dit, puisque c'est comme ça, va chercher place de la ville, va chercher dans tous les rues difficiles de Rennes, va chercher les pauvres, les estropiés, les migrants, tous ceux qui sont sans espérance, tous ceux qui n'ont rien, va les chercher. Amène-les. Il y a quelque chose d'autre pour eux. Les apôtres ont tout laissé. Ils sont partis, ils ont suivi Jésus. Sachez, avec ses poches pleines d'argent, est descendu de son arbre comme une pomme qui tombe de l'arbre. Il est descendu rapidement et il a accueilli Jésus chez lui. Et il lui a fait un repas, un festin avec ses apôtres. Il a reçu l'évangile. Des pères, des mères, au temps de Jésus, implorent Jésus. Viens, ma petite fille est à l'extrémité. Viens vite, on accueille Jésus, on suit Jésus. La femme adultère qui est jetée aux pieds de Jésus, Jésus lui pardonne, la relève. Elle attendait ce pardon et Jésus l'attendait. Il y a autre chose que le monde ne peut pas donner, quelque chose qui vient du Christ. Alors maintenant c'est à vous de jouer, mais ce n'est pas un jeu. À vous aujourd'hui de répondre individuellement. Le serviteur, pas moi, Jésus passe, c'est un portier. Il s'appelle dans la Bible le portier. Ce n'est pas une grande profession. Hein. Il ouvre la porte, mais c'est la porte du ciel. Le portier nous ouvre et nous appelle chacun par notre nom. Il nous connaît depuis que nous sommes nés et il nous dit, Pierre, suis-moi, Jacques, suis-moi, Jean, suis-moi, Philippe, viens, suis-moi. Et toi, la Samaritaine, et toi, la femme adultère, viens, suis-moi. Si la parole du Seigneur ne nous sauve pas aujourd'hui, si on n'entre pas dans cette lumière de l'Évangile, si on n'y adhère pas, cette parole nous jugera quand nous arriverons là-haut. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi qui vous jugera, c'est la parole que vous ne voulez pas. C'est elle qui vous jugera. Cette parole aujourd'hui, c'est la douceur, c'est l'invitation à l'espérance. Il y a un avenir pour chacun de nous, une espérance démesurée, sans proportion avec tout ce que nous vivons. Dieu nous attend. Il attend le dernier des méchants et le premier des bons. Sur la croix, il y avait un homme qui avait tué un bandit, un repris de justice qui est en train de mourir à quelques centimètres de Jésus. Les croix étaient toutes proches sur cette petite colline du calvaire. C'était pas la place du Champ de Mars. Les croix étaient toutes proches et à quelques centimètres, un brigand va mourir. Il n'a pas d'espoir. Sa mère n'est peut-être pas là, ni ses frères, ni ses sœurs, ni ses enfants. Ce dernier des hommes, Jésus lui dit, « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. » Parce que cet homme, il a eu le courage, il a eu le réflexe d'entendre au fond de son cœur, « Viens, tout est prêt. Viens, tout est prêt. » Il est bloqué sur la croix. Il ne peut pas se faire baptiser. Il ne peut pas aller réparer le crime qu'il a fait. Il ne peut pas aller serrer la main de la veuve à qui il a tué le mari. Qu'est-ce qu'il va faire ? Dans la vie, on ne peut pas toujours réparer. Mais on se tourne vers le Christ et il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, parce qu'un jour tu seras le roi et toi tu peux te souvenir de moi. Alors quand je serai dans la mort depuis peut-être longtemps, souviens-toi de moi. » Jésus lui dit, dans l'obscurité totale, il a fait nuit à midi sur la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il avait répondu, Va chercher les estropiés, va chercher ceux qui se sentent coupables, ceux qui ont cassé, ceux qui ont brisé, ceux qui se sont brisés. Va les chercher. Ouvre ton cœur aux splendeurs de demain. Je pense à Jacob dans la Bible. Jacob, cet enfant, ce patriarche, quand il était jeune, il a menti à son père. Il a triché avec son frère. Il a volé son frère. Et puis, ça a mal été. Son frère voulait le tuer. Enfin, une famille qui va mal, quoi. Quand on commence à parler de crime dans une famille, ça va, tout va mal. Il faut vite stopper les machines. Jacob, il est parti en fugue. Il a pris la clé des champs. Et puis là, il s'est couché dans les champs, justement. Il a dormi la nuit dans un champ. Puis il devait se dire, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai raté avec mon père, j'ai raté avec ma mère, j'ai raté avec mon frère jumeau. Ils ne se ressemblaient pas tellement, mais enfin, c'était quand même des jumeaux. Puis là, il est allongé sur la terre, et puis il a la nuit, je ne dis pas un rêve, une vision. Il voit une échelle qui part de là où il est, qui part de là où il dort, une échelle qui monte vers le ciel. Et Dieu est tout en haut. Il y a autre chose. Il n'y a pas que le métro, le bus, le travail, dodo et manger et toujours, il y a autre chose. Le Seigneur était tout en haut de l'échelle. Il y avait des anges qui descendaient et qui montaient comme pour dire « On est là pour te surveiller, on est là pour te protéger, on est là pour que tu ne sois pas seul. » Je vous le dis à vous, il y a une échelle mystérieuse. Cette échelle, pour moi, elle représente Jésus. Si je ne l'avais pas dans ma vie, je crois vraiment que je serais déjà mort plusieurs fois. L'espérance est une échelle. L'espérance, c'est un pont entre le ciel et la terre. Les apôtres disaient autrefois, il y a longtemps, ils disaient, l'espérance, c'est comme une encre de bateau. L'encre de bateau, on la laisse tomber dans la mer, dans le sable. Mais l'encre de l'espérance, on la met dans le ciel. On n'est pas comme tout le monde. Les arbres ont des racines en terre, nous, nos racines sont dans le ciel. L'encre, elle n'est pas dans le sable mouvant. L'encre qui nous tient, qui tient le bateau, qui tient la vie, elle est plantée dans le ciel. Mais là, on ne peut pas y toucher. Hein. C'est Dieu qui la tient. Je suis avec toi tous les jours. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Seigneur qui te fortifie, qui te soutient. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Une des plus belles choses de l'existence, c'est de saisir l'espérance proposée. Venez, tout est prêt. Le reste, tout est beau dans la vie, mais tout passera. Il faut prendre soin de tous, il faut prendre soin des choses, des affaires, du respect, etc. Il y a une chose qui permet tout, c'est l'espérance. Venez, tout est prêt. Venez, tout est prêt. Les apôtres ont prêché ce message. Dans des époques où l'on vivait maximum 35 ans, il fallait avoir vite un enfant parce que souvent à 30 ans, on partait. Il fallait alors pas dire aux gens « vous aurez une belle retraite, vous aurez toujours des années devant vous, bonne année, bonne santé ». Il fallait dire aux gens « venez, tout est prêt, il y a quelqu'un là-haut qui vous appelle, il n'y a pas que les choses de la terre ». Faites confiance à Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Je vous demande de vous recueillir quelques instants. Je voudrais... C'est peut-être parfois ça coûte, vous savez, hein, parce que ça remet les choses, ça nous remet en question. Parfois, on voudrait pas de religion, pas de Dieu, pas de contrainte, et on fait tout pour ne pas croire en Dieu. On fait tout pour ne pas croire en Dieu. Parce que Dieu, il est dérangeant, mais oui, il frappe à la porte, en pleine nuit. Il frappe aux portes, il frappe aux fenêtres, il frappe à notre cœur, et puis ça ne nous va pas, ça nous dérange, et il nous dit « Venez, venez, tout est prêt, allez !» Puis on n'aime pas trop ça, on n'aime pas qu'il s'occupe de trop de notre vie, on ne veut pas être contraint, on ne veut pas être bloqué par je ne sais pas quoi, alors on dit non. L'espérance, la plus belle espérance, c'est dire oui à Jésus. Sur la croix, il a déchiré le voile du ciel. Vous n'échapperez pas, ni vous ni moi, sans Jésus. Il a ouvert la porte du ciel. Tout est prêt. Tout est prêt. Les réformateurs, il y a 5 siècles, ils disaient « La grâce suffit. La grâce de Dieu est suffisante. » Pas à payer, on n'a pas à mériter, on n'a pas à prouver. La grâce suffit. Dieu nous fait grâce. Le brigand sur la croix, il a dit, je vais te prouver que je suis chrétien. Tais-toi, tu seras avec moi dans le paradis. Je prie le Seigneur. Seigneur, nous allons vers toi. Ta voix retentit encore une fois, dans notre cœur. Elle retentit comme elle a retenti dans le cœur des apôtres, dans le cœur des hommes, des femmes de tous les siècles. Venez, venez, venez à moi. Pardonne-nous si nous remettons encore à demain, si nous ne voulons pas y croire, si nous ne voulons pas entrer dans cette merveille de Dieu. Venez, tout est prêt. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Qui pourra décrire le bonheur que tu nous apportes, Seigneur? Je n'ai pas les mots pour le faire, je suis incapable de le dire. Qui pourra décrire la sécurité? Qui pourra décrire la force de ce que tu nous donnes? Touche nos malades, Seigneur, touche-nous aujourd'hui. Frappe un peu plus fort à notre porte pour que nous ne nous décourageions pas. Que nous ne cherchions pas ailleurs ce que tu nous donnes là, maintenant, ici. Merci Seigneur. Pour Jésus de la croix, Jésus dans l'ascension, qui nous montre le chemin, Jésus notre seul espoir. Amen. Restons quelques instants devant le Seigneur. C'est important cet appel. Je l'ai entendu dans mes 18 ans. Tout allait bien pour moi. Je manquais de rien. Je faisais de mal à personne. Je me débrouillais. Tout était bien. Et cet appel m'a complètement terrassé. Comme si je me rendais compte qu'il me manquait ma tête, mon cœur, mes membres, comme si je n'avais plus rien. Et ce jour-là, c'était un 3 septembre. Ça reste gravé. Hein. Je me suis levé, j'ai dit oui Seigneur, oui. Oui, 1000 fois oui. Et depuis, je n'ai jamais, une seule fois, regretté. Oh, mais il y a eu des accidents. Il y a eu des épreuves, des maladies, des chagrins, des deuils, des larmes. Mais l'essentiel, j'étais avec lui. Il était avec moi.